I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Quand j'étais étudiant en fac d'histoire à Brest, une bonne partie de mes petits camarades se destinaient à l'enseignement. Un peu par défaut, parce qu'en termes de débouchés professionnels, on leur proposait pas vraiment grand-chose d'autre. Et quand on en causait ensemble, on sentait bien que c'était plus la résignation et la trouille de se retrouver sans boulot qu'une réelle vocation qui avait déterminé ce choix. Ça m'a toujours interrogé. Aujourd'hui, la profession a du mal à trouver sa place dans la société. Elle est déconsidérée, que ce soit du côté des élèves, des parents. Elle peine à se faire entendre, voire on lui demande de se taire. C'est en tout cas ce que sous-entend clairement le ministère de l'Éducation avec son projet de loi sur l'école de la confiance, qui pour les profs signe la volonté de leur interdire de s'exprimer librement sur leurs difficultés, notamment sur les réseaux sociaux. Ils ont d'ailleurs manifesté contre le texte ce 24 janvier. Face à tout ça, on peut se demander si le métier de prof est toujours en vie. Qu'est-ce qui déconne? Est-ce qu'on a perdu de vue le rôle crucial des enseignants dans la construction des générations futures? Qu'en pensent les profs? Et comment faire pour sortir de cette mauvaise passe? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, un peu de vocabulaire, pour celles et ceux qui, comme moi, ne fréquentent que de loin le monde de l'enseignement. Vous allez entendre régulièrement les termes premier degré, second degré. Le premier degré, ou primaire, ce sont les classes de la maternelle à la fin du CM2. Le second degré, ou le secondaire, c'est tout ce qui va de la 6e à la terminale, le collège et le lycée, en gros. Voilà, comme ça on est raccord sur les termes. L'une des problématiques majeures à laquelle est confronté l'enseignement en ce moment, c'est le recrutement. Sans entrer trop dans le détail, on va dire qu'il y a à la fois un déséquilibre de territoire, avec des académies qui ont du mal à recruter ou à garder les enseignants, et de matière, avec certaines filières comme les maths ou les lettres qui sont en souffrance. J'ai donc demandé à ma première invitée, Catherine Dorizon, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université de Cergy-Pontoise, si on assistait concrètement à une crise de la vocation chez les profs.
Il y a un rapport très intéressant qu'on trouve sur le site du CNESCO, qui est le Conseil national de l'évaluation scolaire. Ils ont demandé à Pierre Perrier, qui est un sociologue, de faire une étude auprès d'étudiants de licence. Il note qu'il y a un paradoxe. À la fois, le métier demeure attractif parce qu'il a du sens. Le sens d'une transmission ou le sens, le sens d'une transmission quand on est attaché à la transmission d'une discipline ou le sens d'une éducation quand on est attaché à l'éducation de jeunes.
Il y a un rôle social de l'enseignant qui est clair, qui est bien identifié.
Qui est bien identifié, mais en même temps, les mêmes disent que le métier est peu prestigieux. Et vraiment, la façon dont ils pensent leur rapport, c'est totalement ambivalent. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une reconnaissance de la valeur sociale du métier et en même temps la connaissance de la difficulté des conditions de travail, des rémunérations, etc., qui sont une réalité complète. Par ailleurs, on note dans les dernières années un nombre très important de candidats au concours, et notamment de concours de professeurs des écoles, qui viennent du secteur public ou du secteur privé pour lesquels ça représente une deuxième carrière. On est à 25% des candidats, c'est très important quand même. C'est-à-dire que donc le devenir professeur des écoles, par exemple, correspond à un choix délibéré au bout d'un certain temps de travail dans d'autres secteurs. Et un des points point qui est noté aussi dans les, mais d'une façon générale dans les recherches, c'est à quel point l'absence d'évolution possible dans les carrières enseignantes pèse sur la représentation du métier.
C'est-à-dire qu'on devient enseignant et a priori on le reste.
Et après on le reste. Et ce qui fait que pendant très longtemps, on a parlé d'une carrière qui se faisait d'établissement en établissement, une carrière horizontale qui ramenait vers le centre-ville. Et assez peu de carrières qui amènent vers d'autres postes du type administratif ou encadrement ou formation. Bon, et c'est un problème qui n'est pas complètement pris en compte par les politiques, alors que dans d'autres pays, il y a une politique beaucoup plus volontariste sur le fait d'aménager les carrières enseignantes, ce qui change la perception du métier.
Et vous parliez des autres pays, comment est-ce que ces carrières évoluent ?
C'est plus systématique, notamment il y a un problème, en France il y avait, alors ça a un peu en train de changer, mais une très faible reconnaissance du travail d'accompagnement des jeunes, alors que dans certains pays, il y a une reconnaissance du travail du tuteur, ce qui va de pair avec une reconnaissance de la difficulté de l'entrée dans le métier ou de la progressivité. Mais ça peut fournir une possibilité d'évolution, y compris au sein d'un établissement. Mais une des spécificités de la France, c'est que les enseignants ont peu d'autres tâches que des tâches d'enseignement. Et donc, alors que s'il y a des pays dans lesquels les tâches de rapport avec les parents, les rapports avec les élèves, mais en dehors de l'enseignement, font partie du travail de façon officielle. Alors que là, en France, ça reste quand même défini essentiellement par des tâches d'enseignement.
Est-ce que, au-delà de la crise de vocation, on n'est pas aussi dans une crise de la perception ? On est passé en un siècle ou un peu moins, des hussards noirs de la République où l'instituteur était une figure d'autorité incontournable, où maintenant on a l'impression que la parole de l'enseignant est très remise en question, à la fois par les élèves, à la fois par les parents qui n'écoutent pas forcément beaucoup ce que les enseignants ont à dire. Est-ce qu'il y a un revirement qui s'est opéré et qu'il faudrait peut-être réajuster ?
D'abord, il faudrait sans doute aller regarder de plus près quelle était la figure réelle de l'instituteur.
Sans doute fantasmée aussi beaucoup.
Nuancer l'image qu'on a. Hein. Toutes les études sociologiques montrent que les parents accordent une grande importance à la réussite et à l'école. Après, la question est de savoir ce qu'on entend par travailler à l'école. C'est autre chose. Quel sens donner aux apprentissages ? Mais l'importance accordée à l'école, ça c'est une constante. Alors, importance accordée à l'école, sûrement. Rapport aux enseignants, ça c'est autre chose. Comment est-ce qu'on parle aux enseignants ? Dans quel rapport conflictuel ? C'est sûr que le fait que les enseignants aient de plus en plus affaire à des parents d'enfants et non pas des parents d'élèves, c'est-à-dire à des parents qui parlent au nom de leur enfant et de son individualité, du respect de sa personnalité, etc. Ça les conduit à être dans une situation qui est différente du temps où ils auraient simplement affaire à des parents d'élèves, et ou pas affaire du tout à des parents d'élèves. Hein. Bon, mais ce qui est le plus difficile pour les enseignants, c'est sans doute les parents qui passent pas par les formes conseil d'école, etc., mais qui viennent dans un rapport strictement individuel, dans des rapports conflictuels. Ça existe et c'est très compliqué à gérer.
Est-ce qu'on les prépare à ça, à ce dialogue qui va être nécessaire de toute façon avec le public, avec les parents et à ce rôle finalement qu'ils ont social, ou est-ce qu'on les prépare uniquement à leurs enseignements ?
C'est tout le problème, je crois. Il y a dans la formation un problème essentiel qui est un problème de temps. Pour pouvoir utiliser les stagiaires en tant que moyen d'enseignement et non pas seulement en tant que moyen de remplacement, ce qui était le cas auparavant, ce qui veut dire qu'ils sont en poste. Dans le premier degré, des enseignants stagiaires utilisés comme moyen d'enseignement, qui sont confrontés donc à une prise en responsabilité de la classe de façon immédiate et très lourde, puisque c'est la moitié de leur temps. Ce qui veut dire que pour la préparation du reste. Enfin, je veux dire, pour la préparation à leur métier, ils sont toujours confrontés à la question de l'urgence. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais lundi ? Oui, d'accord, vous me parlez de la maternelle. Oui, mais moi, je suis en CM2. Donc, me préparer à la question de comment est-ce qu'on accueille un enfant de maternelle ? Oui, ben, je verrai ça quand je serai en maternelle. Et donc, les conditions de formation et les conditions d'entrée dans le métier ont un impact fort sur la façon dont on peut préparer au métier dans ses différentes dimensions.
Est-ce qu'il ne faudrait pas du coup repenser, remettre à plat cette formation, repartir sur de nouvelles bases pour former les futures générations d'enseignants et éviter de reproduire en permanence ce schéma qui semble être un peu en décalage ?
Il y a eu une évolution dans la formation des enseignants. Hein. Dans beaucoup d'endroits, il y a des modules dits de pré-professionnalisation avec des stages, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment encore assez fortement quelque chose de pensé en termes de continuum de la licence jusqu'à après le recrutement qui permettrait à des jeunes de voir des classes, de prendre peu à peu la classe. Bon, et surtout pour moi, de voir d'abord de s'intéresser aux élèves. Je pense qu'un des points clés, c'est de leur donner l'occasion de regarder les élèves faire et regarder les élèves apprendre, alors que quand on les met en situation de prendre tout de suite des responsabilités, ça les centre sur eux-mêmes et ça les centre pas assez sur les élèves. Donc l'évolution, pour moi, l'évolution qui serait souhaitable, ce serait une évolution qui leur permettrait d'entrer en contact avec les élèves et de les regarder travailler, de les regarder apprendre avant de se lancer eux dans le show du prof, quoi.
On évoquait à l'instant les premières années d'enseignement qui sont cruciales. Depuis quelques temps déjà, une association s'est spécialisée dans ce créneau particulier. Elle s'appelle Le Choix de l'École. Elle propose à de jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur avec des profils volontairement très variés d'occuper pendant 2 ans des postes d'enseignants contractuels dans des zones prioritaires. Son président Damien Baldin est venu nous voir avec Capucine Collin qui est prof de lettres en région parisienne depuis 1 an et demi. Je leur ai soumis à tous les deux mon interrogation sur cette supposée crise de la vocation chez les profs. C'est Damien Baldin qui répond en premier et il n'est pas tout à fait d'accord.
Je pense qu'il faut un petit peu nuancer le concept de crise dans le recrutement du métier d'enseignant. D'abord, le métier d'enseignant, ce sont des situations extrêmement diverses. Enseigner en maternelle dans une école de la proche couronne parisienne, ce n'est pas enseigner à l'université à Nice ou à Toulouse. Être enseignant dans un collège de centre-ville, enseigner le français, ce n'est pas enseigner l'économie-gestion dans un lycée professionnel d'une zone rurale. Donc vous avez toute une diversité de statuts, d'expérience d'enseignement. Mmh. C'est aussi très important justement de ne pas tout de suite parler de crise absolue parce que justement l'éducation nationale et le métier d'enseignant souffrent souvent de stéréotypes un peu noirs, un peu négatifs, qui nuisent à son attractivité et quand
qui
vous regardez
faire
la
peur
situation,
potentiellement à des futurs candidats. Oui.
Très concrètement, il y a 2 jours est sortie une étude sur le temps long qui a été menée par la MGEN et par le ministère de l'Éducation nationale sur le bien-être des enseignants. Plus de 80% des enseignants, publics et privés, sont satisfaits ou très satisfaits de leur expérience professionnelle. Et vous avez une majorité d'enseignants qui sont satisfaits même de leurs conditions de vie et de leurs conditions professionnelles. Cela ne veut pas dire que, évidemment, tout est rose et qu'il y a justement ces difficultés, parfois d'enseigner, parfois aussi de violence, évidemment. Et quand je dis violence, c'est pas uniquement la violence des établissements, c'est aussi la violence des relations interpersonnelles entre les adultes. Hein. Donc, il faut bien prendre en compte tous ces paramètres, toute cette diversité de situations. Ce qui est aussi très, très marquant, c'est justement c'est d'aller là où on a aujourd'hui besoin d'enseignants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé avec l'Académie de Créteil, qui aujourd'hui encore est une académie qui non seulement scolarise un grand nombre d'élèves d'éducation prioritaire, qu'il y a une difficulté de recruter, et que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur les 68 enseignants accompagnés par l'association, 53 sont dans l'Académie de Créteil. Les débuts d'une carrière sont aussi extrêmement important et extrêmement difficile. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous souhaitons justement nous porter sur ce début de carrière-là et où l'accompagnement est extrêmement essentiel pour qu'après, l'entrée dans le métier soit plus réussie.
Capucine, vous avez participé au programme du choix de l'école. Comment ça s'est fait ce démarrage de l'enseignement ? Vous avez commencé où, sous quelle forme, avec quel type d'élèves ?
Alors, déjà, ça a commencé par l'université d'été, qui est le tout début du programme, qui dure un mois.
Mmh. Et qui permet de préparer la rentrée. Donc,
qui a lieu avant la première rentrée donc des enseignants contractuels que nous sommes, pour la plupart au sein de l'association. Ouais. Et donc, qui permet un petit peu de se familiariser, bien sûr, avec la pratique du métier d'enseignant, dans le sens où on commence à nous apprendre à préparer nos cours, matière par matière, et puis aussi à nous familiariser avec les enjeux du monde de l'éducation, donc un petit peu plus largement, enfin aux grands enjeux sociologiques, enfin sociétaux de la société française d'aujourd'hui, et puis tout simplement découvrir qui sont les acteurs qu'on va pouvoir croiser dans notre vie de tous les jours au collège. Parce qu'il y a les enseignants qui sont bien sûr très importants, mais il y a aussi tout un microcosme de personnes qui évoluent dans un établissement. Et je trouvais ça très intéressant d'être familiarisée aussi avec ce monde-là avant de commencer à enseigner. Donc, c'était un mois très riche qui nous a bien préparé en tout cas... à sauter dans le grand bain en septembre. Et moi, j'ai commencé dans un établissement de REP+, en Seine-Saint-Denis.
Donc en zone prioritaire.
En zone prioritaire, avec des collégiens. Et j'enseigne toujours les lettres classiques, donc le français et le latin.
Et alors, qu'est-ce que vous retenez de ces débuts, de cette première expérience devant une salle de classe ?
C'est très, très impressionnant de commencer ce métier.
Oui.
On se retrouve seul face à sa classe, des classes parfois difficiles. Et je pense, ce que je retiens des débuts, c'est qu'il faut sans cesse se remettre en question, s'améliorer, réapprendre ce qu'on croyait avoir appris, désapprendre ce qu'on croyait avoir appris. Donc, moi, c'est ce que je retiens de mes débuts comme enseignante, c'est le fait de toujours devoir s'adapter en permanence.
D'où la nécessité, sans doute, d'avoir un support comme peut l'être le choix de l'école, qui est aussi un interlocuteur pour faire ce travail-là au fur et à mesure. C'est mieux que d'être, on va dire, balancé tout seul devant une salle de classe, comme peuvent l'être certains professeurs.
Bien sûr. Alors, faut quand même rappeler que la plupart des professeurs sont des professeurs qui ont été recrutés par concours, par le CAPES ou l'agrégation, donc ils sont aussi accompagnés par l'éducation nationale. La différence, là où le choix de l'école amène une vraie différence, c'est qu'il accompagne les enseignants contractuels, donc qui ne sont pas recrutés par concours, qui sont tout de même recrutés par les académies, mais qui n'ont pas eu besoin de passer le concours d'enseignement et qui sont là en quelque sorte pour occuper les places vacantes parce que le métier n'attire pas assez de personnes qui veulent passer le concours. Donc oui, ces personnes-là, ces contractuels-là, ils sont très peu accompagnés par l'éducation nationale et évidemment que ça a été un énorme plus d'avoir l'association pour nous accompagner dans nos débuts. Et ce que j'ai trouvé aussi très précieux, c'est le cadre d'échange et de coopération que ça a instauré d'emblée entre tous les participants au programme. Et ça, c'est quelque chose qui a été lancé à l'université d'été où on était un petit peu dans une ambiance... d'émulation permanente et d'échange permanent et qui s'est vraiment prolongé tout au long des semaines qu'on a passées à enseigner. Moi, j'ai préparé tous mes cours l'année dernière avec quelques proches amis du choix de l'école. On s'est beaucoup entraidés sur cet aspect-là. Bien sûr, ça ne m'a pas empêché de travailler avec mes collègues dans mon établissement et à construire des séquences de cours avec eux aussi. Mais en tout cas, ce côté de collaboration qui n'est pas toujours évident dans le métier de prof, parce que mine de rien, si on veut rester seul face à sa classe et préparer ses cours tout seul, on peut. Donc cet aspect de collaboration, il a vraiment été insufflé aussi par le choix de l'école et je pense que ça, c'est un des plus grands atouts du programme.
Vous l'avez dit, vous enseignez toujours, vous voyez continuer encore de nombreuses années ?
Oui, je me vois continuer. J'ai passé le CAPES de lettres classiques l'année dernière. Donc là, j'ai vraiment fait mon entrée comme
titulaire.
Je serai titularisée l'année prochaine. Je suis en stage cette année. Je pense, comme beaucoup de personnes de ma génération, je ne fais pas de plan pluriannuel
à très
long terme. Mais en tout cas, je me vois continuer pour le moment pour deux raisons qui sont très, très simples. La première, c'est que j'aime le métier. Et la deuxième, c'est que j'ai l'impression d'avoir encore des énormes progrès à faire.
Oui.
Donc, ça n'aurait pas de sens pour moi de m'arrêter maintenant.
Oui. Est-ce que ça a répondu à un besoin qui est là pour le coup aussi assez générationnel, qui est ce qu'on appelle la quête de sens, ou en tout cas le besoin de sens, c'est-à-dire de retrouver dans notre vie professionnelle un sens à ce que l'on fait dans la société?
C'est sûr que quand on est enseignant, je pense que la question du sens...
Elle est assez évidente.
Elle est assez évidente. Et c'est en effet quelque chose de... d'assez porteur de se dire que quand on se lève le matin, c'est pour aller faire cours à des jeunes adolescents qui sont en formation, donc en ont besoin. Après, comme c'est un métier difficile, on ne ressort pas tous les jours extrêmement satisfait de soi-même.
C'est pas tous les jours gratifiant.
Enfin, voilà, c'est même loin d'être tous les jours gratifiant. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à prendre le recul nécessaire, faire la part des choses entre cette remise en question permanente dont je parlais tout à l'heure.
Oui.
Et le fait de dire, bon, c'est un métier en fait, où on va se former pendant des années et des années, ça peut être difficile à certains moments, mais ça n'en reste pas moins très porteur.
Damien, est-ce qu'on a perdu au fil du temps justement ce rôle, ce sens qu'a l'enseignant dans la société? Est-ce qu'on l'a un peu perdu de vue, on l'a un peu abandonné au profit justement de stéréotypes, ce qu'on évoquait tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'interview? Je dis « on » en termes sociétal très global. Hein.
Je ne crois pas qu'il y ait une perte de sens absolue et une perte du sens de l'importance du métier d'enseignant. Il y a aujourd'hui un service public qui assure une éducation pour tous les enfants qui habitent en France. Et c'est, je crois que les Français y sont très attachés. Les Français sont attachés à l'école. Républicaine. Ils sont aussi attachés au métier d'enseignant. Donc, je ne crois pas, moi, qu'il y ait en tout cas ce sentiment que le professeur ne servirait plus à rien. Au contraire, je pense que dans la société, il y a encore ce sentiment très fort de ce besoin d'enseignant et des missions que les parents confient à l'institution et donc au professeur. Je crois aussi que, de manière un peu plus simple, peut-être, qu'il y a, comme très souvent aussi, un besoin de faire rencontrer aujourd'hui les aspirations des jeunes actifs, des jeunes diplômés qui arrivent justement dans la vie active et faire en sorte que le métier d'enseignant soit justement une aspiration qui soit rapidement évidente ou en tout cas qui puisse répondre à la fois aux missions essentielles que sont ceux aujourd'hui d'enseignants de l'éducation nationale et en même temps aux aspirations qui ont évidemment, elle aussi, changer. La vision des hussardes ou des hussards noirs de la République, elle n'est peut-être pas aussi pertinente aujourd'hui. Et je ne sais pas si toute la génération, parce qu'il en existe aussi encore, là aussi, il faut faire attention aux diversités de motivations. On le voit bien même au sein des enseignants du choix de l'école, tous ne sont pas tenus par les mêmes motivations, les mêmes modèles d'enseignement. Et par conséquent, c'est faire en sorte que l'institution elle-même, puisse accueillir justement ces jeunes qui ont un besoin d'engagement, mais les formes de cet engagement, et puis peut-être même aussi les formes d'enseignement, doivent aussi évoluer pour que justement l'éducation soit en capacité d'aller chercher aujourd'hui les meilleurs enseignants que forme une société. Et donc je crois plutôt que c'est cette rencontre-là qu'il faut organiser et que nous souhaitons justement organiser avec l'association.
Je voudrais juste revenir un peu sur ce que disait Damien. Bien sûr, je pense que c'est important de... Enfin, ça pourrait être pertinent de diversifier les moyens de recrutement au sein de l'éducation nationale, mais pour moi, ce qui est surtout important, c'est de prêter attention à la formation et pas seulement sur les une ou deux premières années de parcours des enseignants, parce que on parlait de, bien sûr, la maîtrise de la matière qui est une chose, mais aussi de l'envie et la capacité à enseigner. Moi, je pense que ce qui est important, c'est surtout l'envie, parce que la capacité, on ne peut pas en avoir connaissance avant d'avoir commencé à enseigner,
classe,
en fait, avant d'être face à une classe. Et je pense que personne n'a la capacité à enseigner dès le premier jour de sa première rentrée. Donc, pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est l'envie, et c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à évaluer au cours du recrutement, et puis surtout à susciter chez les personnes qui sont en train de faire leurs études pour qu'ils se présentent justement au concours.
Et dans tout ce paysage de l'enseignement, on ne s'est même pas encore attelé à tout ce qui concerne les universitaires, car chez eux aussi, on s'interroge énormément sur le sens, l'évolution, les difficultés qui s'accumulent. On tentera d'ailleurs d'en causer très bientôt dans un prochain épisode. Merci à Catherine Dorizon, Damien Baldin et Capucine Colin pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.